Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre votre émission préférée, Terre promise ou enfer. Terre promise ou enfer est un programme de l'initiative chrétienne pour la paix, la réconciliation et le développement ICPRD, consacré à la gouvernance, à la paix et à la gestion durable des ressources naturelles. Ce programme vous parvient grâce au partenariat avec Grand Lac TV. Il est diffusé à la radio Vision Chala FM de Kamituga, mais également sur www.grandlactv.info et également sur SoundCloud et d'autres plateformes digitales. À la présentation de cette émission, je suis Patrick Makiro. Bienvenue. Pour les numéros de ces jours, nous comptons échanger avec nos invités autour du thème « Les responsabilités sociales des entreprises minières œuvrant dans les territoires des Mwenga au sud Kivu ». Cette émission vise à sensibiliser et plaider pour une exploitation responsable des minerais à Mwenga, respectueuse de lois minières et de l'environnement, tout en respectant les obligations des entreprises minières vis-à-vis de communautés locales. Dans cette émission, nous recevons M. Adrien Zawadi, qui est défenseur des droits humains et président honoraire de la société civile du Sud Kivu. Nous serons également avec Maître Faustin Banyanga, qui est plaideur auprès des instances juridiques. Et avec vous, M. Adrien Zawadi, on aimerait savoir quel est l'état des lieux de l'exploitation minière au niveau du territoire des Mwenga avant de toucher la responsabilité des entreprises minières de ces côtés-là.
La situation et la vie que mènent les populations congolaises en général et la population sud-kivoussienne en particulier et de manière, si tu veux, et de manière encore plus particulière, la population de Mwenga, c'est une question, c'est une situation qui peut révolter des personnes sensées, des personnes qui ont encore la conscience et des personnes qui ont encore l'humanité dans eux. C'est révoltant parce que ce sont des situations inacceptables. Et cette situation inacceptable de pauvreté, de misère, de non-droit, c'est cela qui fonde un peu mon engagement citoyen parce que si nous sommes tous nés égaux et que nous sommes dans ce qu'on appelle la res publica, le bien public, ce pays c'est un bien public, il n'y a pas moyen d'accepter ou de côtoyer l'injustice sociale en disant que certains doivent profiter des richesses de ce pays et des avantages que procure ce pays et d'autres doivent trimer et vivre et se demander, tourner les pouces, poireauter et se demander comment ils vont nouer les deux bouts du mois et vivre paisiblement comme des citoyens, et plein citoyens en part entière. Donc voilà un peu, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très engagé sur cette question de justice sociale et de droit des citoyens à vivre de bien que le bon Dieu a voulu donner à ce pays. Ça, c'est par rapport à mon expérience dans le traitement des questions sociales. Mais cela m'oblige aussi à être plus ou moins objectif, à ne pas tomber dans le chantage, à ne pas tomber dans des questions de voilà, le chantage ou des règlements de comptes. Donc, j'essaie autant que faire se peut, j'essaie de m'engager sur cette ligne-là, la justice sociale, et le droit de citoyens à jouir de biens de ce pays. Alors, la situation socio-économique des populations dans les zones minières, c'est une situation de contraste. Et c'est une situation qui défie le droit de l'homme et qui défie le bien-être de tout citoyen. Pourquoi c'est une situation de contraste? Parce que il est impossible et il est inacceptable que les gens qui mettent leur vie en risque pour aller exploiter la terre rare, la terre précieuse qu'on appelle minerais, quand vous le regardez, vous vous demandez si ce sont ces personnes-là qui sortent de quantité d'argent qui construisent les villes, que nous envions à travers le monde. Hong Kong, Dubaï, les Émirats arabes, les États-Unis, toute l'Europe, tous ces pays-là que nous envions sont construits à travers le travail que font les populations qui vivent dans les zones minières. Mais quand vous regardez leur vie, quand vous le regardez de face comme ça, vous avez les yeux pour pleurer, pour vous dire, ça c'est quel genre d'injustice? C'est eux qui devraient être les bénéficiaires. C'est eux qui devraient être les premiers bénéficiaires du travail qu'ils font. Malheureusement, ils ne savent pas nouer les deux bouts du mois et ils vivent au taux du jour pour plusieurs raisons. C'est comme les agriculteurs, les paysans, nos paysans, nos papas, nos mamans, nos frères paysans qui sont dans l'arrière-fond de notre pays. En principe, c'est eux qui font vivre les gens qui vivent dans la ville. Les gens qui vivent dans les villes, ils vivent grâce au travail de ces agriculteurs paysans, de ces paysans qui sont dans les fins fonds de nos villages. Mais quand vous regardez la vie que mènent ces paysans, vous ne vous rendez pas compte que c'est eux qui font vivre la ville. C'est la vie des misères. Et donc, c'est inacceptable. Nous, les gens qui vivent dans la ville devraient avoir un regard humain et juste et une justice envers ces gens-là.
Merci pour ces éléments. Et qu'en est-il des défis qui restent à relever pour booster les développements de ces territoires, l'un des 8 territoires que compte la province du Sud-Kivu?
Le premier défi, c'est le respect des droits de ces artisans. Le respect des droits de respecter ces exploitants artisanaux-là. Ce respect de leurs droits-là, les reconnaître, ce droit-là, c'est un des défis majeurs que nous connaissons à Mwenga. Deuxième défi, c'est de reconnaître que cette terre-là, ce n'est pas un res nullius, c'est-à-dire un bien sans maître. Cette terre de Mwenga appartient à la communauté. Et si elle appartient à la communauté, cette communauté a un droit complet, total sur tout ce qui sort de cette terre-là. Mais ce n'est pas le cas. Et ce droit doit être exprimé en termes de contrepartie de l'exploitation, de ceux qui viennent exploiter, c'est-à-dire les constructions, des infrastructures socio-économiques, les redevances pour le développement. Les défis de cette exploitation, c'est aussi le développement, l'amélioration de la condition de vie de la population, de la communauté, de ses ayants droit là, à cette terre-là. Parce que maintenant, on considère comme si cette communauté, la population de Mwenga et d'ailleurs, n'a pas droit. Non, ce sont des gens qu'on peut chasser comme on veut. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un grand défi, la dignité de ces gens-là. La dignité de ces gens-là, c'est un des défis de l'exploitation minière dans cette zone à Mwenga. Reconnaître que ces gens-là ont une certaine dignité qu'il faut respecter, ce sont des ayants droit toute une reconnaissance et qu'ils ont droit au développement en contrepartie de l'exploitation des minerais de leur sous-sol. Et ça sont des grands défis. L'autre défi qui est général, c'est le défi le respect de loi de la République qui réglemente l'exploitation. Or, on constate que plusieurs exploitants qui viennent là-bas ne respectent pas les lois de la République. C'est dû peut-être à la faiblesse de l'État, mais il y a ce respect-là. Ils pensent qu'ils sont dans une brousse sauvage où ce sont les gens qui sont là-bas ne sont pas des humains. Ce sont des voilà. Non, ça sont des grands défis qui concernent et seulement les exploitants, mais aussi notre société. Et nous devons travailler pour que ces défis-là soient levés. Donc, j'ai dit les défis des droits de l'homme, le défi de la dignité, le défi de considérer ces gens-là comme des ayants droit, et le défi du développement. Or, depuis qu'on exploite la richesse minière du territoire de Mwenga, on ne voit pas et on ne sent pas que les exploitants respectent effectivement le droit de communauté locale. D'ailleurs, ce qu'ils font, c'est de diviser ces communautés locales, opposer ces communautés locales et donner, corrompre certains leaders de cette communauté locale avec des miettes, pour enfin larguer toute une masse, la grande partie de la population, larguer toute cette grande population dans la rue en disant vous ne pouvez pas, dans l'injustice sociale, vous ne pouvez rien nous faire. Donc ça sont des grands défis auxquels nous pensons que nous tous comme communauté, comme société, nous devons nous lever pour le respect de ces droits de nos concitoyens qui vivent dans les zones minières.
On se tourne de l'autre côté de Maître Faustin Banyanga. Maître Faustin Banyanga, on aimerait savoir comment, qu'est dit la loi par rapport aux responsabilités des entreprises qui se sont lancées dans l'exploitation minière, que ce soit au niveau de Mwenga ou dans d'autres régions, selon la loi de la République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, cher présentateur. Parlant de la loi, nous devons d'abord rappeler quelle est la loi qui régit, bien évidemment, la matière dont on parle, c'est-à-dire les mines en République démocratique du Congo. Et nous allons juste parler du code minier qui a été révisé en 2018, c'est-à-dire la loi est de 2002, mais elle a été révisée, modifiée et complétée en mars 2018. Pour instaurer certaines nouveautés, notamment faire à ce que les entreprises minières puissent avoir des obligations légales. Et ces obligations sont à trois titres. La première obligation, c'est l'obligation sociale. La deuxième obligation, c'est l'obligation environnementale. Et l'autre obligation, c'est la réparation ou l'indemnisation. Parlant de la responsabilité sociale, nous voyons d'abord la responsabilité qui incombe aux entreprises minières de tenir compte du cahier des charges de communautés locales. Les communautés locales, ce sont ces personnes-là qui entourent la zone qui fera l'objet de l'exploitation minière. Par exemple, la zone n'a pas de routes. La zone n'a pas d'école, la zone n'a pas des hôpitaux, la zone n'a pas de personnel formé, c'est-à-dire les habitants sont entre guillemets des analphabètes et tout. Mm-hmm. Alors, l'entreprise minière a cette obligation-là, à travers les représentants de la population, de discuter, de dialoguer, avant même de commencer ses activités dans la zone, à prendre en relais ou en contact avec le personnel qui représente la population pour discuter sur le besoin le plus vitaux de la population, entre autres l'éducation, les routes, les hôpitaux, donc la santé et tout, et tout. Alors tout cela doit être discuté au préalable par les représentants de la population et cela dans ce qu'on appelle les cahiers de charges. Ces cahiers de charges doivent en plus être approuvés par le gouvernement provincial. Voyez-vous ? Donc, dès que déjà il y a un compromis sur ce que l'on va réaliser comme grande action au bénéfice de la population dans les cahiers de charges, voilà, on doit approuver ça, le gouvernement provincial, c'est ce qui est dû la loi, doit approuver ces cahiers de charges. À part l'obligation de prendre en compte le cahier de charges de la population, l'entreprise minière qui veut s'installer dans une zone X ou Y, voilà, et doit indemniser la population ou la personne qui sera troublée par les activités de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, l'entreprise vient, c'est une propriété de quelqu'un. Et la propriété de quelqu'un, elle est sacrée. La loi protège les propriétés individuelles. Maintenant, l'entreprise minière, quand elle vient chez vous, présentateur Don Patrick, elle doit nécessairement vous indemniser, vous en tant que propriétaire terrien. Voyez-vous, les sols et les sous-sols, bien sûr, appartiennent à l'État, mais nous en jouissons, nous en tant que particuliers. Quand il vient s'installer chez moi, il doit me remettre dans mes droits, c'est-à-dire m'indemniser. À part ça, l'autre obligation qui revient à une entreprise minière, c'est de protéger l'environnement. C'est ainsi que la loi oblige à toute entreprise minière, avant de commencer ses activités, de lancer des études d'impact environnemental. Voyez-vous, avec des experts, on doit regarder est-ce que l'exploitation minière dans cette zone ne va pas perturber l'accès à l'eau, par exemple. Peut-être qu'il y a une rivière qui dessert le village X en eau. Alors, une fois maintenant les activités minières commencent dans cette zone, est-ce que ça ne peut pas bouleverser l'accès à l'eau,
à la population,
voilà, ou comme, créer des érosions, oui,
comme ce qui se passe de l'autre côté avec la rivière Lubumbashi, vous suivez, voilà, avec la pollution de cette rivière et qui impacte sur la vie sociale de la population.
Exactement, voyez-vous. Donc, on doit étudier tout cela avant que l'entreprise ne lance ses activités. Et voilà. C'est un peu ça, les trois obligations que la loi donne aux entreprises minière. Et cela doit être, pour celui qui veut se référencer, doit lire les articles 280, 281 du code minier, révisé en 2018.
Oui. Prenons les cas de ces territoires, de cette partie de la province du Sud-Kivu, parce que nous nous focalisons vers le territoire des Mwenga, l'un de 8 territoires qui compte la province du Sud-Kivu. Qu'en est-il de l'autre côté? Parce que la population, c'est la menthe, également la société civile et d'autres activités et d'autres activistes des droits humains disent que dans la plupart des cas, cette loi n'est pas respectée et la responsabilité sociale des entreprises œuvrant dans les secteurs miniers n'est toujours pas respectée de l'autre côté. Je ne sais pas si cette loi peut être appliquée aussi, ouais, ou c'est négligé volontairement.
Regrettons d'abord ensemble, chers présentateurs, que les entreprises minières, la plupart, ne respectent pas la loi. Vous savez, vous-même, lorsque dans un pays, la justice est entre guillemets malade, comme le disait...
Certaines entreprises, ou la plupart des entreprises,
je veux dire la plupart, pourquoi? Parce que les entreprises minières sont puissantes. Ils ont de l'argent. Donc, facilement, ça, ce sont les commentaires de grandes... jurisconsultes, allais-je dire, ils vous disent que la corruption passe facilement lorsqu'on a de l'argent. Et la population locale, ce sont des gens qui n'ont pas, bon, ils ne sont pas très forts économiquement. Alors, lorsqu'ils se plaignent, leurs plaintes sont un peu minimisées parce que l'argent circule. Voyez-vous? Et c'est ça ce qui fait obstacle à l'application de la loi.
Comme les constats que venait de faire Adrien Zawadi, activiste des droits de l'homme.
Voilà, c'est pourquoi la plupart de personnes, comme les activistes des droits humains, les ONG de défense des droits de l'homme, ils recourent plutôt à l'origine de ces sociétés minières pour leur faire obstacle quand ils violent le code minier. Par exemple, quand l'entreprise a de la nationalité française, la plupart des ONG... ils partent en France pour traduire en justice ou ester en justice l'entreprise. Parce qu'ils savent que là, l'entreprise n'est pas puissante. Contrairement à si on la faisait ester en justice de manière locale.
Local, oui.
Et voilà, ils peuvent avoir certaines magouilles.
Ils peuvent utiliser leur influence, voilà, leurs moyens.
Exactement. Alors que la loi dit que les entreprises minières doivent financer à 0,3% de leur budget, donc de leur... frais d'investissement, 0,3%. Ils doivent investir les 0,3% dans les projets de développement communautaire. Alors, c'est ce qui n'a pas toujours été fait. C'est ainsi que la population devrait être informée sur ses droits, notamment à qui s'adresser lorsque leurs droits en tant que communauté locale sont en train d'être piétinés.
Et quelles seraient des preuves techniques qui prouvent réellement que cette responsabilité sociale n'est pas respectée à Mwenga?
Bon, en fait, ça doit être constaté. Ça doit être observé. Nous nous sommes convenus que vous allez nous construire 10 écoles. Mais jusque-là, vous n'avez construit aucune.
Et les constants actuels à Mwenga, par exemple?
Bon, en fait, c'est là où je peux avoir du mal à me prononcer. Mais je sais que la réalité est la même partout. À Mwenga, ils ne vont pas faire obstacle parce que jusque-là, nous n'avons pas vu la population des Mwenga applaudir les sociétés minières qui y sont. Mais j'estime que les sociétés minières qui y sont devraient en tout cas tenir compte des besoins de la population pour répondre dans tous les cas à leurs inquiétudes, surtout parce qu'il y va du développement durable.
Partant, nous en tant que journalistes, partant des informations que nous avons sur terrain et des fois des reportages, nous recevons souvent de plaintes des organisations de la société civile, des activistes des droits humains de l'autre côté, qui plairent toujours, qui dénoncent la détérioration de la vie de la population, carence des infrastructures pour arriver à Mwenga, nous le savons, on est tous au sud Kivu, l'accès à l'eau également, à d'autres besoins nécessaires, c'est pirement difficile. Il y a des endroits où avoir même un sachet du sel, ça coûte 4 fois plus cher qu'ici à Bukavu, par exemple. Et ce ne sont que des cas similaires qui se passent toujours. Et donc, c'est là, partant des explications que vous venez de donner, c'est là peut prouver exactement que c'est une matière à réflexion qui pousserait à voir de loin la mise en application de cahiers des charges des populations. Est-ce que les populations donnent également leur cahier des charges à ces entreprises lors de leurs installations? Est-ce que ça ne peut pas être sujet de questionnement?
En tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée et ça nécessite de réponses concrètes. Mais retenons que parmi le territoire qui ne devrait pas manquer les routes et encore un asphalte, des routes très bien faites, c'est la population des Mwenga parce que c'est à Mwenga où il y a des gisements de minerais en République démocratique du Congo et au site Kivu particulièrement en très grande quantité. C'est-à-dire c'est de la mauvaise foi de la part des miniers et c'est l'absence du contrôle de l'État dans ce qui concerne l'observation ou la prise en compte ou l'exécution ou la mise en œuvre du cahier des charges.
Et c'est là où j'ajoute, maître, sans pour autant vous arracher la parole, c'est là où il y a même la rivière reconnue au niveau mondial d'avoir de l'or en quantité de l'or et l'exploitation onshore de l'or au niveau mondial dans la rivière Oulindi, c'est toujours dans les coins. Ouais. Eh bien, donc c'est une région, oui, ouais, c'est une région en tout cas qui a beaucoup de minerais et ça mérite mieux.
C'est de cela que je dis, cette population mérite mieux parce qu'elle enrichit le monde. Actuellement, la population des Mwenga, le territoire des Mwenga, a déjà rendu des hommes de très grands puissants au monde. Les entreprises, des très grandes entreprises que je ne vais pas citer ici, ils utilisent le minerai de Mwenga par l'entremise des pays que nous connaissons ici et là. Donc Mwenga fait vivre les nations. Mais est-ce que Mwenga, on peut y vivre? Difficilement alors, parce qu'il n'y a pas de route. C'est ainsi que le cadastre minier, s'il fonctionnait en tout cas de manière effective en République démocratique du Congo, c'est les cadastres miniers qui devraient réceptionner toutes les plaintes-là de population, aller au terrain, faire les constats de manquements et transmettre bien évidemment les rapports au ministre, par exemple, national des mines, pour qu'il y ait des décisions qui doivent se prendre. Et parmi ces décisions, on doit prendre des amendes à infliger à toutes ces entreprises minières. Soit on leur retire les titres miniers qu'on leur donne pour venir exploiter en RDC. Donc on doit quand même avoir un État qui protège sa population face aux puissants. Les miniers sont naturellement des puissants. Alors il faut aussi un État puissant qui protège sa population devant cette puissance-là. Et ce n'est pas le faire, c'est vraiment reculer vers 10 ans en arrière ou 100 ans et ainsi de suite.
Voilà, merci maître Faustin. Comme nous avançons vers la fin de cette émission, on aimerait maintenant savoir lorsque ces engagements ne sont pas respectés, lorsque ces engagements, la responsabilité sociale des entreprises d'exploitation minière n'est pas respectée. Quelle doit être la réaction, enfin la population doit se comporter comment? Quelle attitude doit prendre la population?
Il y a dans la loi, dans les codes miniers de 2018, à ses articles 313 à 328, organise le mécanisme de recours et des sanctions. Et parmi ces recours, il y a d'abord les recours administratifs. C'est-à-dire, lorsque vous estimez que ça ne marche pas, écrivez à l'autorité, écrivez à l'organisation ou bien à la société minière. Au niveau interne, on peut trouver un arrangement amiable. On peut vous faire asseoir, l'autorité, par exemple, le gouverneur ou le ministre des Mines peut vous faire des conciliations pour que les représentants de la population, les membres de la société civile du milieu, peuvent justement entrevoir une solution qui peut les aider à réclamer leurs droits. Parce que les cahiers des charges, c'est pas, l'exécuteur n'est pas une faveur, mais c'est une obligation qui incombe à l'organisation ou bien à la société minière. Alors, à part les recours administratifs, il y a aussi le recours judiciaire. On peut s'adresser au juge et lui dire, monsieur le juge, cette société est chez nous, elle est en train de prendre notre or, mais elle ne nous fait pas ce qui lui revient aussi à nous faire. C'est-à-dire, là, on peut dire, cette société est en train de nous voler, là, j'exagère, est en train de nous voler notre or, mais en retour, elle ne nous construit pas des routes. Nous sommes en droit de prouver ça auprès du juge, c'est-à-dire c'est plus mieux de s'adresser d'abord au parquet. Le parquet va faire son instruction, va suivre de près l'affaire. Si devant déjà les magistrats ça ne marche pas, c'est au magistrat d'apprécier s'il faut déjà voir les juges pour que par un jugement, une décision judiciaire, qu'on puisse remettre la population dans ses droits. Mais là, il y a un problème. Juridiquement par là, c'est toujours posé un problème de la qualité des personnes. Parce que vous êtes la population, vous êtes une communauté.
Oui.
Lorsque la population arrive déjà à sauter sur les miniers, rassurez-vous que l'État n'a pas joué son rôle de médiateur, de centralisateur, le rôle de modérateur. Voyez-vous ? Mais l'État, s'il jouait son rôle d'un chef d'un arbre au milieu de la forêt, la population ne peut pas arriver jusqu'à freindre le passage aux miniers d'aller faire ce qui leur est dû. Voyez-vous ?
Parce qu'ils ont l'autorisation du gouvernement.
Ils ont l'autorisation du gouvernement. C'est à l'État de venir et leur dire « Ah, messieurs, tu vois, tu nous as promis de nous construire autant de kilomètres de route, tu ne le fais pas. » Et c'est à l'État de lui retirer, par exemple, son titre d'exploitation ou de lui infliger des amendes. Et ce n'est pas la population de recourir à la violence,
voilà,
pour se remettre dans les droits, dans leurs droits.
Merci à vous, Maître Faustin Banyanga. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette émission des séjours. Mais nous retiendrons que la bonne gouvernance exige que chaque entreprise également reconnue doit impérativement tenir compte de la responsabilité sociale dans l'exercice de ses activités. Eh bien, Terre Promise ou Enfer vous est proposé par ICPRD en collaboration avec Grand Lac TV. Merci de nous suivre en FM sur Vision Chalaka Mitouga et vous pouvez nous retrouver également en podcast sur www.grandlactv.info et sur SoundCloud, mais également sur d'autres plateformes numériques. Merci pour votre fidélité et retrouvons-nous à la prochaine occasion. Au revoir.